Donc, moi, je me posais la question pour aujourd'hui, qui sommes-nous? C'est ça la question. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes un rassemblement de chrétiens soumis à la parole de Dieu. C'est ça que nous sommes. Qui sommes-nous? Nous sommes des chrétiens. Un rassemblement de chrétiens soumis à la parole de Dieu. Donc, on lit dans Matthieu, et je prends un petit peu de temps pour que des personnes qui n'ont pas l'habitude de trouver des choses puissent le faire. En Matthieu chapitre 16 et verset 18, Matthieu chapitre 16 et verset 18, c'est la page 974. Dans les choses que Jésus a dit, il y a cette phrase. Je bâtirai mon église. Quand Jésus est venu, il est venu en mission. Il n'est pas arrivé à hasard, comme ça. Hop, Dieu a décidé, tiens, je vais venir visiter l'humanité. Non, depuis avant tout le temps, Dieu avait fait la décision que un jour en particulier, quand on chante le chant « voici le jour », et bien quand vous lisez le psaume, c'est ce jour-là qui, depuis avant le temps, Dieu avait prévu que son fils allait mourir sur cette croix. Il est venu en mission, et donc on voit bien que c'est Dieu qui, depuis le début, a fait le premier pas. Ce n'est pas nous qui frappons. Dieu, je peux venir au ciel? Et lui qui répond, c'est lui qui dit, venez, venez. C'est lui qui fait l'appel et c'est les hommes qui répondent. Jésus est venu, il est venu en mission pour établir une église, un rassemblement. Et il y a deux manifestations de cette chose. Il y a le rassemblement céleste. Au moment qu'on croit en Jésus-Christ, on est uni à Jésus dans les lieux célestes. Mais en même temps, sur la planète, il y a plein de petits rassemblements. Alors qu'on a chanté tout à l'heure, tout ensemble nous pouvons chanter, etc., etc., montrer l'amour de Dieu, gna, 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 au monde entier. Eh bien, il n'y a pas une réunion que tous les chrétiens vont se rassembler sur la planète. Déjà, ça a pris 6 heures pour aller chez mon fils et 9 heures pour arriver en conférence en Allemagne. Tout le monde ne va pas venir à Brive-la-Gaillarde pour faire un rendez-vous ensemble, pour montrer l'amour de Dieu. Hein? Ça ne va pas se passer. Mais il y a les petits rassemblements, on appelle les églises locales, les églises dans une localité, les rassemblements physiques des croyants. Et là, il y a plein partout sur la planète. Sauf où se trouve Hannah. Il n'y a pas d'église dans son pays, si j'ai bien compris. Donc, nous, et je ne dis pas ça à l'exclusivité des autres, mais nous, ici, on est un rassemblement de croyants en Jésus-Christ, soumis à la parole de Dieu. Nous voulons manifester l'enseignement de Jésus et nous voulons propager la connaissance de notre Sauveur. Dans Luc chapitre 5, verset 32, page 1025, nous lisons. Alors, verset 32, je l'ai perdu. Voilà. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, donc les gens qui se considèrent justes, mais des pécheurs. Donc, je transforme la phrase. Je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Et le fait, c'est que tous sont pécheurs, bien que tous ne veulent pas reconnaître qu'ils sont pécheurs. Les justes, les propres justes, prétendent être justes. Ils ne sont pas justes. Ils sont pécheurs. Ils sont pervertis. Ils ont autant besoin que nous d'un sauveur. L'appel au salut est pour tous. On le proclame, on le propose. Mais il faut que la personne de son bon gré, de son plein cœur, veut recevoir ce message du Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, au verset 45, page 1007. Marc, chapitre 10, verset 45. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc là, il est dit dans le sens effectif, parce que tout le monde ne va pas être sauvé, parce que tout le monde ne veut pas être sauvé. Mais tous qui veulent être sauvés peuvent être sauvés. Donc on a deux choses dans ce verset. Il dit, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. OK? Donc il y a l'idée de service et il y a l'idée d'une rançon. Seul Jésus est la rançon. Unique. Il a tout payé. Vous n'avez rien à payer. Votre salut est un don gratuit sur la base, bien sûr, de votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, moi, je ne peux pas vous aider à arriver au ciel parce que Jésus a déjà tout fait. Notre Église ne peut pas vous aider. Vous ne pouvez pas vous aider. Et bien sûr, Marie ne peut pas vous aider. Il y a plein de monde qui pense toujours que Marie peut les aider à arriver au ciel. Marie, ou l'Église, ou vous-même ne peut pas vous aider parce que Jésus a tout fait. Mais mettez-vous à côté de Jésus, dans sa place. Il a tout fait et puis vous dites, « Ah, mais je n'accepte pas le tout fait que tu as fait. Je voudrais payer un peu. Je voudrais que quelqu'un d'autre m'aide. » C'est offensif. Dieu ne peut pas accepter que vous rejetez son fils pour accepter quelqu'un d'autre, une institution à sa place. La seule rançon, c'est celui que Jésus a payé sur la croix. La seule chose qu'on peut faire, c'est de croire. Donc, nous avons cru. Hein? Nous avons cru à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons accepté ou subi, je ne sais pas comment dire, le mot subi, c'est un peu péjoratif, je pense, mais on a subi quand même le baptême du croyant. On l'a accepté, on s'était mis dans l'eau pour être identifié avec le Seigneur Jésus. Ce baptême se fait au nom de la Trinité. L'Évangile s'explique seulement dans le contexte de la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes qui font que un. La seconde personne de la Trinité s'est fait homme. Il a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais péché. Pourtant, il était crucifié. Il est mort d'une manière physique sur la croix. Quelqu'un m'a dit il y a quelques années, « Le Saint-Esprit est mort sur la croix pour moi. » Excusez-moi, mais non. Le Saint-Esprit n'est pas mort sur la croix. Le Fils de Dieu est mort sur la croix. Si on n'accepte pas que Jésus est le Fils de Dieu, il n'y a pas d'évangile. Et puis, il a récupéré sa vie. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Ça fait partie de l'évangile. Un sauveur mort ne peut pas nous aider. Obligatoirement, s'il y a une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il peut nous communiquer la vie qu'il a. Il est ressuscité. Il est retourné auprès de son Père, donc on dit sa glorification auprès du Père. Et quand il était là-haut, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand je serai de retour chez mon Père, je demanderai le Saint-Esprit et il vous l'enverrait. Donc, on a la troisième personne de la Trinité qui vient habiter dans chaque croyant au moment qu'il se convertit à Jésus-Christ. Alors, j'ai mis un tableau là-haut que vous pouvez regarder plus tard. Les œuvres du Saint-Esprit avant le salut, dans le salut, depuis le salut. Et bien sûr, on a nous aussi des choses à faire en tant que chrétiens. Mais il y a toutes ces choses qui ont lieu dans cette phrase que je viens de dire. Dieu a envoyé le Saint-Esprit, la troisième partie de la Trinité, pour habiter en nous. depuis le moment que nous avons cru en Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, page 1088, c'est Actes chapitre 2, versets 38 et 39. Nous lisons, c'est page, à la fin de la page 1087 et début de la page 1088. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en ce qui concerne le pardon de vos péchés et vous recevrez, donc quand vous croyez en Jésus-Christ, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse, cette promesse, est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » Et nous, on est au loin dans le temps, à partir du moment qu'il a fait cette prédication. « En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » OK? Donc, l'idée là, c'est que quand on croit en Jésus-Christ, Dieu a pourvu toute la salut. Depuis le moment qu'on croit jusqu'à l'état éternel, nous avons tout ce que Dieu a prévu dans le salut. Maintenant que nous avons cru en Jésus, nous avons à développer notre vie de chrétien. Notre vie de chrétien, obligatoirement, est enracinée dans le Saint-Esprit. Donc, on va manifester les œuvres du Saint-Esprit, donc les fruits de l'Esprit, donc l'amour, la paix, la patience, la bonté, toutes ces choses, ressortent du Saint-Esprit. Alors, je voudrais regarder dans Matthieu chapitre 28. Je vous ai sauté à droite et à gauche aujourd'hui. D'habitude, je reste assez stable dans ma prédication. Matthieu chapitre 28, verset 18, c'est la page 992. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir, toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc de l'époque. » L'Aionion. Donc, on voit ici deux choses. On voit l'Évangile et les disciples. Allez, faites des disciples. Donc, allez, comme Marc a dit, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et faire donc des disciples et enseigner les disciples. Donc, on a à proclamer le message par lequel nous avons été sauvés. Paul a fait ça. Hein? Paul a cru en Jésus-Christ, à l'évangile de Jésus-Christ. Il a enseigné cet évangile aux Corinthiens. Il a dit, vous êtes sauvés de la même manière que moi j'ai été sauvé. Et si vous voulez voir votre famille, vos amis, vos voisins sauvés, eh bien, c'est de la même manière que vous avez été sauvés. Quelqu'un va partager l'évangile. Et ça devrait être vous. Alors peut-être qu'il ne veut pas vous entendre. Vous pouvez prier pour eux parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre que Dieu peut amener dans leur vie pour faire ce qu'ils ne veulent pas entendre de votre part. La puissance du Saint-Esprit vous est donnée pour accomplir l'œuvre de Dieu, proclamer l'Évangile et vivre l'Évangile. Quand vous regardez dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 1 et verset 8, je vais le lire. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Donc voilà, quelle puissance, c'est le Saint-Esprit. « Et avec cette puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit pour nous faire plaisir, pour nous faire s'enrichir, pour nous faire populaire ou, je sais pas, maire de la ville ou quelque chose. Il a donné le Saint-Esprit avec un objectif, que nous puissions proclamer et bien sûr vivre l'Évangile. C'est pour cela que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Alors, on n'a pas trop parlé, mais sur nos réglettes, il y a les deux tablettes. Les deux tablettes qui disent « Aime Dieu, aime ton prochain ». Les deux tablettes, ça représente la loi. Je me suis perdu dans mes notes, voilà. Donc, Jésus a dit que ces deux principes, « Aimez Dieu de tout votre cœur, etc. » et « Aimez ton prochain comme toi-même », ça résume toute la loi. Okay? C'est les principes de base. Mais le problème, c'est que personne ne peut faire ça. Ah, mais j'aime Dieu. Ah, il vous l'aimez comment? Parce qu'il me donne des choses. Donc, c'est égoïste, mon amour pour Dieu, peut-être. Oh, j'aime mon prochain parce qu'il fait ceci, cela pour moi. Mais vraiment, aimer Dieu à 100% et aimer son prochain à 100%, eh bien, personne ne le fait. Et ce manque d'amour manifeste que nous sommes tous pécheurs. Nous trébuchons tous à ses égards. Donc, que faire ou comment faire pour aimer Dieu? Comment montrer notre amour pour Dieu? Alors, Jésus a donné quelques enseignements là-dessous. Donc, on va voir dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 31, page 1068. 1068. Jean chapitre 8, verset 31. Oh, c'est page 1067. Donc, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Comment montrer à Dieu l'amour? Demeurez dans sa parole, c'est comme cela que nous sommes ses disciples. Aussi, dans, toujours dans Jean, chapitre 15, page 1077. Jean, chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Comment pouvons-nous aimer Dieu? En demeurant en lui, en demeurant dans sa parole, en ce que sa parole demeure en nous par le Saint-Esprit. Et puis aussi, nous pouvons aimer Dieu en faisant sa volonté. Donc, on va voir dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Ce ne sont pas des versets obscurs, bien sûr. Ce sont des versets que tout le monde connaît. Éphésiens chapitre 2, verset 8. La page 1174. 1174. Donc, Éphésiens chapitre 2, c'est surtout le verset 10, mais je vais lire à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela, donc on parle du salut, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Donc le mot « pour », c'est l'idée d'objectif. Pourquoi Dieu nous a sauvés? Pour de bonnes œuvres, pour les œuvres bienfaisantes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous mettions en pratique les œuvres de Dieu, les bonnes œuvres, les œuvres bienfaisantes que Dieu a préparées. Et en Romains chapitre 12, donc c'est la page 1136. 1136. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Okay? Donc, Dieu, il a des choses. Il veut que nous fassions. Et on a plein d'idées déjà dans l'esprit. Hein, comme j'ai prié tout à l'heure pour les gens à Faverge. C'est plein de superstitions. Et ceux qui pensent des bonnes choses sont en fait des mauvaises choses. Donc, il faut ce renouvellement de l'intelligence. Et ça va venir d'où? Ça va venir de la parole de Dieu. S'il ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu, on ne peut pas avancer. On ne peut pas contraindre les autres à faire comme on veut. Parce que ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est de moi. Et on ne veut pas ça. On veut que les gens marchent selon l'esprit. On marche selon l'esprit parce que l'esprit a donné sa parole. Et on veut suivre la parole de Dieu. Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Je le paraphrase un peu. Suivez-moi. Devenir mes disciples et je vous ferai pêcheur d'hommes. C'est ça que Jésus fait. Il a dit, je vais bâtir mon église. Allez, proclamez l'évangile. Pour ceux qui deviennent chrétiens, je vais faire d'eux pêcheurs d'hommes pour entrer dans mon travail, dans mon œuvre. Alors, comment va-t-on dire, non, je ne veux pas être pêcheur d'homme. Peut-on dire ça et être disciple de Jésus? Il faut réfléchir. Parce que je pense que la plupart des personnes, ils ont un peu cette idée. Non, je ne peux pas être pêcheur d'homme. Ce n'est pas dans ma personnalité. Et c'est peut-être vrai. Vous savez, quand Jésus a dit ça, ce n'était pas encore les apôtres. Hein? C'était les pêcheurs. C'était les gens qui avaient un travail, un métier. Ils faisaient ça tous les jours. Ils allaient dans le lac, ils faisaient la pêche et tout ça. Et il a dit que je vais faire de vous des évangélistes. Chacun selon les dons que Dieu lui donne, bien sûr. Selon les capacités, selon les personnalités que Dieu vous a déjà données. Parce que Dieu n'est pas ignorant de vos personnalités. Pourtant, il fait la promesse. Si vous suivez Jésus, il fera de vous pêcheurs d'hommes. C'est pour cela que je vous dis plusieurs fois, soyez prêts, parce que le jour vient quand quelqu'un va vous dire, mais pourquoi vous croyez ça? Qu'est-ce que vous croyez? Et c'est à ce moment-là que vous serez pêcheurs d'hommes. Alors, on a M. Baines qui va venir, il est évangéliste. J'ai fait avec lui une semaine d'évangélisation sur Paris. On était au boucher, comment dire, le métro, bouche de métro, et on distribuait les évangiles de Jean avec les évangiles romains, épîtres aux Romains. Et on a fait ça, il y avait au début 200 000 évangiles. Donc, je ne sais pas combien on a distribué, on a fait ça une semaine. Et quand moi, je suis parti, eux, ils ont continué. C'était toute une équipe. Et après, ils sont allés ailleurs dans le monde pour faire le même genre de choses. Il est évangéliste. C'est ce que Dieu a mis sur son cœur. Et il fait ça. Il ne fait pas ça à tout le monde. Moi, je suis là, tranquille, brive la gaillarde. Hein? Mais à chacun, selon les dons et les capacités que Dieu lui donne. Pourtant, si vous suivez Jésus, vous allez faire la pêche.
Oui, mais pour évangéliser, donc je l'ai baptisé.
Oui.
Bon, c'est mort pour moi, je ne suis pas baptisé. Alors, il ne faut pas évangéliser.
Il faut connaître l'évangile avant d'évangéliser. On peut en parler un jour, ok? Je l'expliquerai bien pour toi, ok? Et pour ta mère aussi, si elle veut. Hein?
De quoi?
Ta mère, si oui. Elle veut qu'elle explique aussi pour elle, ok? Mais je te le ferai toute seule, à toi, ok?
Moi, j'attends pour baptiser.
Bien sûr. Alors, comment pouvons-nous aimer notre voisin, notre prochain? Alors, Jésus avait dit, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et on voit tout à travers le Nouveau Testament cette idée de de servir. La dernière soir, quand on était dans la chambre haute et Jésus a pris ses vêtements et commencé à laver les pieds des autres, et Pierre a dit, oh non, tu ne vas pas laver mes pieds. Et Jésus dit, si je ne lave pas tes pieds, mais tu n'as rien à voir avec moi. Jésus, donc Pierre dit, mais lave-moi tout. Et Jésus dit, non, tu n'as qu'un besoin que je lave tes pieds. Hein? Il a dit, j'ai fait ceci à vous, vous allez faire ça. Je vous ai donné le modèle. Servir les uns les autres. Laver les pieds. Qui veut laver les pieds des uns et des autres? Personne ne veut servir. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu. Par amour, par bonne volonté, par humilité, nous avons à servir les uns les autres. Ça se passe comme ça. OK? Alors, le groupe américain est venu nous servir. Hein? Et quand ils étaient là, nous aussi, nous avons également, on les a servis. Les uns ont servi les autres et ensemble, on a fait tout un programme. Je voudrais voir dans 2 Timothée, chapitre 2, page 1197. Donc, j'ai parlé là de ce que nous sommes, ok? Mais si nous sommes, si nous arrivons à être ça, est-ce qu'on va enterrer ça et puis oublier ça? Ou est-ce qu'il y a une suite? Donc, j'ai une carte de prière. Donc, c'est le missionnaire qui a organisé la réunion en Allemagne, Mr. Virtue. OK?
Dites-moi. Donc, il a dit, l'année prochaine, je ne serai pas avec vous. Il va mourir.
C'est un peu triste de dire une chose comme ça. On organise là cette année, mais l'année prochaine, vous devez l'organiser parce que je vais mourir entre les deux. Plusieurs fois, j'ai vu des missionnaires, ils ont fait leur ministère. Ils sont morts. Et puis l'église ferme la porte. Parce que l'église n'a pas pris le relais. Ça, c'est pas bien. Il y a plein d'églises baptistes qui n'ont pas de pasteur en France. Parce qu'il n'y a pas de jeunes hommes qui veulent être pasteur, qui veulent prendre le temps de se préparer. Ils veulent faire, oh, ben là, improvise, je vais faire ceci, cela, mais je ne veux pas donner ma vie pour servir Dieu. Qui veut dire, en traduction, le missionnaire va partir ou il va mourir, et puis ça va aller pendant quelques mois, ou un an. Et puis ils vont commencer à, comment ça s'appelle, patiner. Et puis les gens vont aller dans les autres églises, les églises pentecôtistes, charismatiques, etc. Et puis, fermer la porte. Et c'est fini. Ça, c'est dommage. Plus de témoignages, plus d'églises bibliques. Donc, 2 Timothée 2, 2, en lisant, on lit, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » On veut propager l'Évangile. On veut propager le ministère du Seigneur Jésus. Il est venu pour établir son Église, pour bâtir son Église. Et il fait ça dans les localités comme ici. Et on ne veut pas voir tout de suite, voilà, ça ferme les portes. L'église là, Oxford est là depuis quoi? 800 ans? 1100? 800 ans? C'est ça? Ben, c'est bien. qu'une église qui a duré plusieurs siècles. Notre église à San Francisco, ils ont fait presque 150 ans, je pense. Hein? Toujours en prêchant l'évangile. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va propager ou on va un jour se fermer? Hein? Parce qu'un jour, hein, moi aussi, je vais mourir ou partir, on ne sait pas. Mais c'est certitude. Hein? Le missionnaire a le mandat de proclamer l'évangile et de regrouper les croyants baptisés. Le missionnaire, il est temporaire, mais l'Église est permanente. Donc moi, en tant que missionnaire, je suis en France, ici à Brive, pour évangéliser, pour enseigner la parole de Dieu et pour organiser les croyants baptisés. On a déjà fait tout ça. Hein? J'ai déjà fait tout ça. Vous avez déjà fait tout ça. Hein? Comme j'ai donné à Pierre tout à l'heure notre confession de foi, le résumé de notre foi, parce qu'il veut être membre. Ben, c'est nous, ensemble, qui ont établi ce document, n'est-ce pas? Donc, c'est nous qui faisons ça. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Le travail du missionnaire est au début d'une église pour bien fonder sur la parole de Dieu et organiser selon le modèle biblique. Je vais vous lire quelques phrases. Tite 1.5, Paul dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre les choses qui restent à régler. » Il y a des choses qu'il faut régler. Et à établir les anciens dans chaque ville, dans chaque église, dans chaque ville. À Matthieu chapitre 7, Jésus a dit qu'il faut fonder notre vie et donc notre rassemblement sur le roc, qui est Jésus. En Colossiens chapitre 2, nous lisons, « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, donc dans votre cœur, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. » C'est ça, il faut fonder, enraciné dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, chose curieuse, c'est curieux, pour moi ça m'étonne. Paul a fondé l'église à Corinthe. Paul était un grand apôtre. Il était parmi eux comme pasteur, enseignant, un an et demi, 18 mois. Puis, il a laissé l'église entre les mains des frères. Et qu'est-ce qui est arrivé? Plaf! L'église est tombée en ruine. Et il a dû écrire deux lettres pour les réprimander et les corriger. C'était triste. Mais c'est bien pour nous, parce qu'on a besoin aussi de ces exhortations que Paul a laissées par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Hein? Mais dans le partie humaine de cette histoire, c'est triste que Paul, l'apôtre, a œuvré 18 mois et quand il est parti pour démarrer d'autres églises, eh bien, cette église-là est tombée en ruine. Hein? Ça, c'est triste. Donc, normalement, avec le temps, une église va mûrir et l'église va établir des pasteurs, des diacres, des diaconesses. Mais il faut reconnaître que ces mots-là, en gros, veut dire nourrir et servir. On va établir par la suite pasteurs, diacres, etc. Pas pour dominer, pas pour abuser, pas pour tromper, pas pour... les raisons néfastes, mais pour nourrir et servir. Question. Êtes-vous prêt à évangéliser? Et êtes-vous prêt à servir? Jésus vous amène à être pêcheur d'hommes et à servir les uns et les autres. Donc, globalement, on a dit qui nous sommes, un rassemblement de croyants en Jésus-Christ, une église fondée sur la parole, attachée, soumise à la parole, disciple du Seigneur Jésus. On a à proclamer notre salut, on a à faire des autres disciples, à les enseigner la parole et les aider à reproduire ce qui est dans notre vie. Je vous laisse avec une verset, Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour des hommes. Ce que vous pouvez chanter. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Et j'espère que c'est comme ça que nous agissons dans notre rassemblement, dans notre communauté. Amen.
Amen.
Amen.